7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h44, précisément, dans 10 minutes, ce sera la chronique de Ludovine de la Rochère, suivie de l'analyse de Jean Messia, mais tout de suite, la chronique de Jean-Hugues Gana.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et cette ligne droite, c'est avec Jean-Eudes Gana. Bonjour Jean-Eudes.
Bonjour Richard, comment allez-vous?
À merveille, merci, et vous-même?
Très bien, j'ai écouté avec attention l'émission précédente, j'ai trouvé ça très intéressant.
Ah ben alors, Abel Quentin et d'ailleurs Gaspard Koenig, je profite pour faire une pub gratuite, ce sont vraiment deux auteurs à suivre. On sent une liberté de pensée incroyable par rapport au milieu intellectuel français. Voilà, donc ils vont là où leur intelligence les mène avec une manière tout à fait passionnante de se poser des questions, d'essayer d'y répondre et non pas de nous fourguer des synthèses à abracadabrante ou du progressisme à la Grèce de Cheval de Bois. C'est vraiment très bien. Vous vouliez nous parler, hélas, d'autre chose, c'est-à-dire du reste de la réalité. On n'est pas dans l'IA générative, on est plutôt dans la dégénération de la police, par exemple.
Tout à fait, mais encore une fois, c'est sur Radio Courtoisie qu'on entend parler des gens comme votre intervenant ou Gaspard Koenig, et c'est sur Radio Courtoisie, je pense que on a entendu sur les ondes, hein, en tout cas, pour la première fois, parler d'Henri Nowak, vous savez, ce jeune Anglais, puisque dès le lendemain du drame, sur Radio Courtoisie, on en parlait, ce jeune Anglais qui a été poignardé par un Sikh et qui, se vidant de son sang, est mort alors que la police venait de le menotter parce qu'elle ne le croyait pas. Elle ne le croyait pas. Pourquoi ? Parce qu'il était blanc, donc il a été poignardé parce que blanc, menotté par la police parce que blanc et occulté par la presse parce que blanc. Et ceci commence à avoir des conséquences en Angleterre puisque il y a eu des émeutes à Southampton du fait de la diffusion sur les réseaux sociaux notamment des images de son arrestation. Voilà, on voit la police refuser de le croire lorsqu'il dit qu'il a été poignardé et au contraire elle le traîne au sol et elle le menotte. Une image commence aussi d'ailleurs à faire le tour du monde. On y voit sa main exsangue d'une blancheur extrême, menottée et plaquée par des mains gantées de policiers, comme une allégorie des peuples européens maintenus en servitude jusqu'à ce que mort s'en suive par des systèmes froids et déshumanisés, par un antiracisme délirant. Voilà. Et dans ce système, il existe un rouage important que la droite française se refuse à dénoncer à la hauteur de ces dérapages, c'est la police. Voilà. Lorsqu'il y a des émeutes en Angleterre et qu'on voit des Anglais s'en prendre à la police, il y a une petite tradition d'émeute quand même en Angleterre, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui disent « non, mais c'est pas de la faute de la police, etc. » Alors c'est amusant parce qu'il est de bon ton de conspuer les juges rouges qui persécutent les Français et brident la liberté d'expression, mais par un miracle incompréhensible, l'institution policière serait vierge par essence. Dispenser d'office de toute critique. Voilà. L'argument, généralement, il est le suivant. Les pauvres policiers font leur travail. Souvent, ils pensent comme nous et ne font qu'obéir aux ordres. Voilà. Moi, c'est un raisonnement qui me dérange parce qu'avec un tel raisonnement, on peut défendre les juges qui, après tout, se contentent bien souvent d'appliquer bêtement les lois bridant notre liberté d'expression. Voilà. J'aimerais bien voir la tête des gens s'il y a une soirée débat du JDD ou Frontières ou n'importe, ou Radio Courtoisie. Quelqu'un cherchait à disculper les juges rouges en déclarant, après tout, ce n'est pas la magistrature qui a fait voter les lois Pleven, Guesso et tout l'arsenal antiraciste qui permet de condamner Zemmour. Les pauvres, ils ne font qu'appliquer ces lois, mais vous verrez, hein, si les lois changent, ils suivront. Voilà. Pourtant, ce discours est le seul discours autorisé lorsqu'on dénonce le zèle d'une partie des policiers. Hein, il ne s'agit pas de détester la police en tant que telle. On entend ce discours, ils ne font qu'obéir aux ordres. Si le pouvoir change, tu verras, ils seront avec nous puisqu'ils pensent comme nous. Voilà. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que la droite doit imposer un rapport de force, qu'elle doit faire pression sur les juges et qu'elle doit faire pression sur la police aussi. Personnellement, je n'en ai rien à faire que des policiers et des gendarmes votent à 75% Rassemblement National si dans le même temps, ils obéissent massivement aux ordres, éborgnent les gilets jaunes, verbalisent les pauvres Français qui ont oublié de remplir leur auto-attestation Covid, ruinent la vie d'artisans pour un verre de trop dans le restaurant routier du coin, font du zèle lorsqu'un militant identitaire au hasard filme trois Afghans devant un supermarché de campagne. Voilà.
Non, hier quand soir même pas. Encore,
hier soir encore, la conférence de Jared Taylor, organisée par les natifs, a été interrompue par les forces de l'ordre. Sans doute avec la fameuse jurisprudence Dieudonné, d'ailleurs, vous savez, qui stipule qu'on peut interdire en amont tout événement où, je cite, « risquerait de se tenir des propos portant atteinte à la dignité humaine ». Voilà. J'en ai fait les frais, moi, personnellement, de cette jurisprudence pour des choses aussi anodines que des feux de la Saint-Jean ou une conférence dans un lieu privé sur le populisme. Alors, je l'ai dit, je le redis, il ne s'agit pas de détester les juges ou la police, toute société en a besoin, mais il s'agit de sortir du carcan moral de la droite française selon laquelle il est mal élevé et contre-productif d'élever la police, de critiquer la police, pardon. La police n'est pas intouchable, voilà. Et moi, je pense que c'est précisément parce qu'une majeure partie des forces de l'ordre constate au quotidien les ravages de l'immigration que les responsables politiques devraient exercer une pression médiatique chaque fois que celle-ci participe à la répression d'État sur les identitaires notamment, voilà. Pourquoi un juge de gauche se permet-il d'interpréter la loi à sa sauce pour relâcher, par exemple, des violeurs multirécidivistes en disant qu'ils n'ont pas les bons codes culturels quand un flic de droite n'ose pas agir conformément à ses convictions? Eh bien, en refusant par principe de critiquer la police lorsqu'elle est le bras armé du système, la droite, implicitement, refuse de soutenir les policiers qui désobéiraient à des ordres iniques. Voilà. Je me suis un peu écarté, mais chez ces mêmes responsables politiques, il y a un autre mot qui semble tabou, c'est le mot blanc. Voilà, parce que suite aux émeutes du PSG, on a entendu, et à raison d'ailleurs, Bardella, qui a fait le lien entre les débordements post-victoire du PSG et l'immigration, mais il y a quand même un non-dit majeur en fait dans toute la classe politique, c'est comment constate-t-on la submersion migratoire et ses basses œuvres? C'est d'abord l'absence de blanc sur les images qui choque. Voilà. Là non plus, de la même façon que mon propos n'est pas de détester la police, il ne s'agit pas de tomber dans un matérialisme racial abscon, bien sûr, mais de nommer les choses. Voilà. Il y a des juges qui sont mauvais, il y a des policiers qui appliquent des lois iniques alors qu'ils devraient désobéir, et il y a sur les images une majorité écrasante de non-blancs. Voilà. Et il faut le dire aussi, les sociétés blanches, les pays restés blancs, sont des lieux de sécurité et d'ordre comparés aux sociétés multiethniques, qui sont, elles, des sociétés conflictuelles et dysfonctionnelles. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que je sens un petit peu, à l'approche de 2027, une musique assez déplaisante. On va beaucoup dénoncer l'immigration, mais qu'est-ce à dire que dénoncer l'immigration aujourd'hui? L'immigration, c'est trop vague. Vouloir arrêter l'immigration, d'accord, mais laquelle? Celle de demain ou celle d'hier? Voilà. Mélenchon a raison avec son concept de Nouvelle France. Il dit, après tout, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Alors, comment arrêter l'immigration sans enclencher la remigration? Je sais que Maëlys Clauzel a couvert un sommet récemment. Voilà, il faut bien faire rentrer dans le crâne de nos concitoyens et de nos responsables politiques que, de la même manière que lutter contre le chômage, c'est vouloir moins de chômeurs, eh bien, vouloir moins d'immigration, c'est d'abord vouloir moins d'immigrés et pas seulement stopper leur venue, mais aussi en renvoyer un maximum chez eux. Et ceci, il faut le dire, même si la police vient nous arrêter chez nous pour cela. Voilà. Et d'ailleurs, à quoi reconnaît-on une terre sinistrée par l'immigration? Eh bien, c'est à l'absence de blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il faut réintroduire le mot blanc dans notre vocabulaire quotidien, parce qu'en se l'interdisant, on permet des drames comme celui qui est arrivé à Henri Nowak, à savoir qu'on refuse d'extérioriser des choses tout à fait banales et on finit par contribuer à l'antiracisme ambiant. Donc, chers amis, sans tomber dans un racisme bête et primaire, n'hésitez pas à parler des blancs d'une autre manière que pour les culpabiliser, disons.
Sans tomber dans aucun racisme, n'hésitez pas à parler des blancs. Je voudrais ajouter deux choses. D'abord, Maëlys Clauzel a justement reçu Jean-Pierre Colombiès de la police qui nous parlait de la force, la face obscure de la police. Donc, bien sûr, on a commencé, y compris sur Radio Courtoisie,
Que Radio Courtoisie est une radio d'avant-garde. Hein.
Voilà. Et je voulais aussi parler du blog de Jean-Dominique Merchet, qui a été pendant 10 ans éditorialiste à l'Opinion et qui est maintenant sur LCI et qui parlait dans un poste très intéressant, donc sur son blog Secret Défense V2, pourquoi les émeutes urbaines sont un problème géopolitique. Ben évidemment, il parlait d'affrontements de population et il disait, je le cite, les images et les récits témoignent que les troubles à l'ordre public ont été provoqués majoritairement par des jeunes garçons venus des quartiers périphériques et souvent issus de l'immigration, et ce n'est pas la première fois. Et donc peu à peu, on sent que la chape de plomb se lève, on sent que le voile se déchire et qu'on a le droit, en fait, de parler de ce qui ne va pas. Un membre du Parlement britannique a d'ailleurs demandé, suite au meurtre d'Henry Nowak et surtout suite aux révélations qui prouvaient que les policiers, évidemment, avaient volontairement ignoré ces appels à l'aide parce que son agresseur était un sikh et qu'ils étaient tétanisés malgré les grooming gangs à l'idée de l'arrêter. Il a demandé qu'on abroge une directive de la police qui expliquait qu'il fallait différencier les approches en fonction de la race supposée de la personne qui commettait l'infraction. Donc c'est un document officiel de la police britannique qui mettait effectivement en place non pas un contrôle au faciès tel que le dénoncent régulièrement les politiques français de gauche, mais au contraire qui instituait le fait qu'il y ait une différenciation de traitement officiel en faisant en sorte que ceux qui ne sont pas blancs, puisque donc visiblement ce document instituait la couleur de peau comme critère, et bien ceux qui ne sont pas blancs doivent être traités avec plus de précaution que les blancs. Donc on en est arrivé là en Angleterre, on risque d'arriver là en France.
Oui, et puis ça se fait d'ailleurs au détriment de tous les non-blancs qui mènent une vie parfaitement normale, intégrée, etc., et qui vont finir par recevoir en effet boomerang la colère populaire des populations natives qui mettront tout le monde dans le même sac. Donc franchement, contre le racisme, moins d'antiracisme.
Jean-Luc Gana, pardonnez-moi ma question. Bon, vous êtes maintenant un homme respectable puisque vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou bleu. Voilà, félicitations. Dans la minute 35 qui nous reste, comment se passe votre vie de conseiller municipal ?
Écoutez, elle se passe bien. C'est à la fois intéressant et désespérant. C'est intéressant parce qu'on découvre le fonctionnement d'une collectivité territoriale, puisque je suis à la fois conseiller municipal et conseiller communautaire, donc conseiller de la communauté de communes. Et je découvre jour après jour le parfait retard, si vous voulez, sur les maux de la société française qu'ont toutes ces collectivités. Alors, on débat très longuement d'un certain nombre de choses qui sont intéressantes et utiles, hein, la répartition dans les commissions des différents groupes, les commissions intelligence artificielle, vous savez, pour Segré en Anjou bleu, ça me semble un petit peu prématuré, et on ne parle pas d'un certain nombre de vrais sujets, mais le plus marquant et le plus intéressant, c'est de voir la distance, même dans les collectivités locales, entre le citoyen et le politique. Je m'explique. Typiquement, à Segré, donc il y a Segré en Anjou bleu, qui est donc la réunion d'une quinzaine de communes. C'est déjà un éloignement majeur du politique et du citoyen. Segré en Anjou bleu a centralisé la vie politique et la vie quotidienne de milliers de gens. Et au-dessus de Segré en Anjou bleu, il y a un échelon qui est donc Anjou bleu communauté, qui là rassemble plusieurs communautés de communes distantes les unes des autres de parfois plus de 40-45 kilomètres. Et qui vont disserter ensemble de l'enlèvement des poubelles, du patrimoine, du tourisme, de la fiscalité, etc. Comme si, vous savez, les réalités étaient les mêmes à 45 kilomètres d'écart. Mais au-dessus de cela, il y a encore ce qu'on appelle le pays, que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas. Déjà, la différence entre communauté de communes et conseil communautaire, la plupart des gens, bon, ça leur est un peu obscur. Mais il y a le pays. Voilà, on est du pays d'Anjou bleu. Alors, ça ne veut absolument rien dire. Et au pays siègent encore d'autres gens, sont encore payés d'autres gens qui prennent encore d'autres décisions dans l'opacité la plus totale. Et c'est vraiment complètement fou parce que c'est à la fois scandaleux, agaçant. Et en même temps, on est obligé pour ça de déployer des trésors de bonne volonté, de bénévolat et tout, puisque les élus qui siègent dans tous ces trucs-là, passent parfois carrément un mi-temps, hein, littéralement, à aller siéger dans des commissions, siéger dans différents endroits et tout, pour discuter de l'avenir de leurs concitoyens, mais de manière totalement déconnectée.
Jean-Luc Gana, pardon de vous avoir lancé sur ce sujet, on sent que c'est passionnant, oui. Vous y consacrerez une prochaine chronique. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Et tout de suite, Ludovine Delarochère, présidente du syndicat de la famille, va nous parler.
Ligne droite.
PSG samedi soir, nos dirigeants n'ont pas évoqué leur propre responsabilité, mais celle des parents. Il en avait été de même en juillet 2023, lors des émeutes qui avaient suivi la mort de Naël. Mais où sont les parents? Où sont les pères? Avaient alors dit Emmanuel Macron et ses ministres. Réaction renouvelée cette semaine. Par extraordinaire, nos dirigeants semblent donc réaliser que l'éducation revient aux parents. Ils semblent même se souvenir, tout à coup, que les pères ont un rôle particulier, différenciant au passage le père de la mère. Ainsi, des circonstances exceptionnelles viennent révéler qu'il leur reste, tapis au fond du fond de leur cerveau, un peu de bon sens. Oui, le contexte familial est fondamental. Oui, les parents sont les éducateurs de leurs enfants. Oui, les pères ont bien un rôle spécifique et irremplaçable dans l'éducation. Et j'ajouterais même, oui, dans l'éducation, il faut parfois se faire entendre avec fermeté. Oui, il faut savoir poser des limites et les faire respecter. Car en la matière, ce qui n'est pas acquis tout jeune ne l'est beaucoup plus difficilement plus tard. L'être humain a besoin de tester jusqu'où il peut aller, pour apprendre à maîtriser ses envies, pour connaître son terrain de jeu ou de vie plutôt, pour sécuriser sa zone. La conséquence, c'est que lorsqu'il n'a trouvé aucune limite dans son enfance, l'être humain ira les chercher plus tard et plus loin. Nos leaders d'opinion à la mode et nombre de nos politiques n'ont eu de cesse de leur côté de penser, façon Rousseau, que les enfants naissent en fait déjà éduqués, déjà conscients des règles, spontanément vertueux, bons, altruistes, respectueux de l'autre, etc. Et qu'un enfant envoie le contenu de son assiette par terre, qu'il ne sache pas maîtriser sa colère, qu'il tape son petit frère ou son petit camarade de classe, serait le signe que les parents n'ont pas su se mettre à sa hauteur, n'ont pas su être compréhensifs. Bref, ces grands Manitou sont adeptes de toutes les joies de l'éducation positive, en plus mal comprise et mal reprise. Nos politiques ont ainsi interdit la fessée. Ils ont fait descendre parents et enseignants de leur piédestal. Ils ont tout fait pour que les femmes mènent leur carrière comme des hommes, sans aucune pause, je veux dire, et donc en confiant leur bébé de quelques semaines à d'autres. Bref, nos politiques ont absolument tout fait à l'encontre de l'éducation des enfants. Et maintenant, ils pleurnichent, tel l'enfant qui pleure devant le jouet qu'il a cassé. Malgré tout, les parents de ces jeunes ne les ont effectivement pas éduqués, me direz-vous. C'est vrai. Et à cela, je vois trois causes principales. Premièrement, puisqu'une partie importante de ces jeunes sont issus de l'immigration, on ne peut que faire le lien entre ces comportements et le fait d'être originaire d'une autre culture, d'une autre communauté que la communauté nationale, même si ce n'est pas systématique, bien évidemment. Et de fait, si l'on cherche à comprendre, on voit vite qu'il est plus difficile d'élever ses enfants lorsqu'on est soi-même déraciné, lorsqu'on ne maîtrise pas la langue du pays où l'on est, lorsqu'on n'en connaît pas ou peu les us et les coutumes. Un magistrat qui rencontre ces jeunes et leur famille tous les jours me l'expliquait récemment. L'autorité du père est particulièrement mise à mal dans les familles récemment immigrées. En effet, comment se sentir légitime à exercer son autorité de père lorsqu'on n'est pas reconnu dans son entourage social? Il n'y a pas de village, il n'y a pas de place commune, plus de travail à proximité, plus de rôle social visible. Le sentiment d'illégitimité est tel, en tout cas, que la démission des pères est très fréquente dans les populations des cités. Le sociologue Thomas Sauvadet en faisait lui-même le constat dans Libération. C'est dire l'ampleur du phénomène. Les mères se retrouvent donc seules à tenter d'éduquer leurs enfants. Mais c'est particulièrement difficile, surtout dans une culture qui mésestime la fonction et donc la légitimité de la femme à exercer une autorité, en particulier sur ses fils. Deuxièmement, la famille est devenue très instable de manière générale. Avec le dénigrement du mariage, avec la valorisation de l'union libre, puis avec la création du Pax, le nombre de mariages a considérablement chuté au fil des années. Et même si le mariage est la forme d'union la plus stable, le couple marié est lui aussi de plus en plus fragile. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à quiconque, évidemment. Chaque couple a son histoire et ce qui s'y passe ou s'est passé ne regarde personne. Mais le fait est que la culture ambiante et les choix politiques ont considérablement fragilisé les unions. Le divorce est devenu très facile et rapide, juridiquement parlant, j'entends. Vous vous dites peut-être qu'un mariage qui ne marche pas serait de toute façon rompu. En réalité, à chaque fois que le divorce a été rendu plus facile, loi après loi, sa courbe a monté un gros palier supplémentaire. Tout cela fait que les enfants élevés par un parent seul, généralement la mère, sont de plus en plus nombreux. Et d'autant plus nombreux que nos dirigeants ont eu la sidérante idée de légaliser la PMA pour les femmes seules, c'est-à-dire de démultiplier volontairement le nombre d'enfants élevés par une mère seule. Or, Édouard Philippe le disait lui-même, il est beaucoup plus difficile d'élever un enfant seul. En effet, comment faire vivre son foyer, donc travailler en dehors, tout en entourant et en élevant son enfant ? Impossible en vérité, sauf à être tout près des grands-parents par exemple. Et encore, ils ne remplaceront pas le père qui manque. Ainsi, tout concourt pour beaucoup à rendre plus difficile l'éducation des enfants. Troisièmement, les parents, enfin, ont été très largement déresponsabilisés. Là encore, par la culture ambiante et par les choix politiques. Dès 2 mois et demi, le tout petit est confié à la crèche. Il serait formidable, paraît-il, de vivre dès le plus jeune âge en collectivité. Ce serait bon pour la sociabilisation de l'enfant. Mais à 2 mois et demi, cela n'a absolument aucun sens. Il n'y en a aucun bénéfice pour l'enfant. Et quand on sait qu'une mère elle-même est débordée avec 2 jeunes enfants, et on la comprend, comment croire qu'une personne en charge de 6 bébés du même âge, comme c'est le cas d'une crèche, dans une crèche, comment pourrait-elle s'en sortir mieux ? Certes, on ne peut pas dire qu'on éduque déjà un tout petit, mais on lui parle, on lui sourit, on l'écoute. Et au fil des jours, on lui donne un rythme, on lui donne des règles qu'on adapte au fur et à mesure de ses progrès et possibilités. Or, ce tout petit, en 2026, il est toute la journée à la crèche, de 0 à 3 ans, puis à l'école ensuite. Et quand je dis à l'école, comprenez-moi bien, c'est la classe de 8h à 16h, puis le périscolaire jusqu'à 18h ou 19h, avant de rentrer à la maison, où bientôt il geekera sur son smartphone avant de s'endormir. Dans ce contexte, quand et comment la famille peut-elle éduquer son enfant ? La vérité, c'est que l'État a estimé qu'il était plus à même d'éduquer les enfants que les parents. Et même sur les sujets les plus délicats, les plus intimes, même sur ceux qui dépendent le plus largement des convictions personnelles, je pense à l'éducation morale et civique, et bien sûr à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Comme si cela pouvait relever d'un enseignement scolaire, comme si c'était le rôle de l'école. Et en réalité, l'échec est absolument retentissant, dramatique, pour les comportements publics et sociaux, comme on l'a vu avec les violences de samedi soir, mais aussi pour les comportements privés, comme la hausse considérable des violences sexuelles notamment le montre. Il est urgent d'agir pour la famille, de restaurer la place et le rôle des parents. Il est urgent aussi de ne plus laisser entrer des populations qui en réalité se retrouvent ensuite déracinées et démunies pour élever leurs enfants.
Ligne droite, l'analyse.
Et l'analyse, c'est le plaisir de retrouver Jean Messia. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Richard, ça me fait plaisir de vous retrouver, c'était longtemps.
Voilà, le camarade Alexandre de Gazin est allé prononcer une conférence dans je ne sais quel pays européen, donc c'est moi qui suis à la manœuvre. Jean, je voulais vous parler de l'affaire Duralex. Est-ce que par hasard vous avez suivi en tant qu'économiste la manière dont cette SCOP, donc cette société coopérative et participative a échoué, à votre avis, on en parlait avec Joseph Touvenel et Laurent Isard ce matin, est-ce dû à une défaillance du management, est-ce dû à un problème français de coût de l'énergie, est-ce dû à un problème plus général de la mondialisation voulue par l'Union européenne ?
En fait, si vous voulez, on a beaucoup parlé des fleurons français qui passent sous pavillon étranger ou qui se délocalisent ou qui tout simplement ferment leurs portes. Alors évidemment, il y a eu ces grandes multinationales françaises qui ont fait beaucoup parler, mais malheureusement, c'est que la face émergée de l'iceberg. La réalité, pour reprendre un peu le contexte, c'est que tout le tissu industriel français a été, détricoté, a été jeté, face à la concurrence internationale sans aucune protection par un État qui a tout simplement abdiqué. Parce qu'on parle beaucoup de l'abdication de l'État sur le terrain sécuritaire et migratoire, il faut aussi parler de l'abdication de l'État en réalité sur l'ensemble de ses missions, également de ses missions économiques et industrielles. Fut un temps, l'État était le fer de lance de l'industrialisation de la France, c'est devenu, à partir des années 80, le fer de lance de la désindustrialisation de la France. Et Duralex, il s'inscrit pleinement dans cette analyse globale, c'est-à-dire que c'est un champion français de la fabrication de verre, notamment, dont le savoir-faire finalement n'a pas été protégé. Évidemment que quand vous avez un verre au départ, un verre Duralex, qui coûte 15 euros et en face vous avez pratiquement le même verre parce que le design a été copié et que rien n'a été fait pour le protéger et que vous avez une copie chinoise ou asiatique, si vous voulez, à deux fois ou trois fois moins cher, dans un contexte en plus de paupérisation massive des Français, c'est le cercle vicieux. Les Français se paupérisent, ils cherchent les produits les moins chers. Les produits français étant fabriqués en France avec des conditions salariales, sociales, environnementales, sanitaires absolument invraisemblables, on force les Français en quelque sorte à payer leur propre désindustrialisation. La France résiste, les Français résistent, les salariés de Duralex étaient très attachés à leur entreprise, ils n'ont pas voulu voir cette entreprise ancestrale fermer ses portes comme tant d'autres, tristement, et ils ont essayé de nager malgré le courant, malgré le fait qu'ils n'aient pas été aidés par l'État, malgré le fait qu'engoncés dans une idéologie libre-échangiste d'ouverture des frontières sans condition, de soi-disant concurrence libre et non faussée, ils ont résisté tant qu'ils ont pu, mais malheureusement, lorsque le cadre macroéconomique ne vient pas au secours des comportements microéconomiques, c'est très difficile pour un entrepreneur, si solide soit-il, de résister au torrent, si vous voulez. Malheureusement, Duralex rejoint toutes ces entreprises françaises qui ont fait la une de l'actualité ces dernières décennies et qui, à moins d'un sursaut, si vous voulez, en 2027, parce que en 2027, les choses sont encore sauvables, il y a des tas de savoir-faire en France qui ont été perdus définitivement parce qu'on n'a pas su les sauver à temps. Est-ce qu'en 2027, il sera encore temps de sauver Duralex ? Je l'espère.
Alors, et d'autant que 2027 est encore loin, Duralex est en cessation de paiement. Roland Liscure a dit quelque chose qui m'a en fait choqué. Alors, je suis content pour les salariés de Duralex et pour les actionnaires de Duralex, c'est-à-dire dont 60% de ses salariés sont actionnaires. Il a expliqué qu'il fallait continuer d'aider cette entreprise dans laquelle des dizaines de millions d'euros, je crois 35 cumulés, si on compte tous les acteurs publics qui ont été mobilisés depuis 2024, des dizaines de millions d'euros ont été déjà investis. Roland Liscure a expliqué qu'il fallait sauver Duralex, ou continuer à l'aider en tout cas, parce que c'est, je cite, une entreprise emblématique. Et il y a quelque chose d'exaspérant en Macronie, c'est la manière dont on sent que l'image médiatique d'une municipalité, d'une victime, d'une entreprise, lui confère un statut spécial, un totem d'immunité qui lui permet de traverser les vicissitudes, alors que tous ceux qui sont exactement dans la même situation, mais sur lesquels les projecteurs ne sont pas braqués, sont destinés à disparaître.
Oui, d'autant plus que Roland Lescure réinvente l'eau chaude, pardonnez-moi. Dans les années 80, déjà, lorsque les houillères commençaient à fermer, toute l'industrie de la sidérurgie, de l'acier, était en grande difficulté. Je ne sais pas, vous êtes de la génération qui a connu le ministre de la reconversion. Il s'agissait en fait, les libéraux critiquaient ça en disant il s'agit de ce qu'on appelle la politique des canards boiteux. c'est-à-dire des entreprises qui n'arrivent pas à survivre par le simple mécanisme du marché parce qu'elles n'ont pas les reins suffisamment solides pour affronter une concurrence qu'on leur impose, alors elles vont être sédatées en quelque sorte par les aides publiques. Mais on voit bien que ça ne marche pas. D'abord, ces aides publiques, c'est financé à fonds perdus sans savoir exactement ce que ça va donner. Très souvent, vous avez aussi des entreprises qui sont des chasseuses de primes. Alors, ce n'est pas le cas de Duralex, mais on n'a pas le droit de distinguer entre les entreprises européennes, voire internationales, et les entreprises françaises. Ben, vous avez des entreprises qui viennent, qui s'installent, qui demandent les aides, qui sont financées, qui sont sous perfusion. Pendant un an, deux ans, elles perçoivent des dizaines de millions, et on a même entendu parler de centaines de millions d'aides, pour in fine mettre la clé sous la porte, parce qu'elles ne sont contraintes à rien, elles ne sont obligées à rien, et que les aides ne sont pas conditionnelles. Voilà, donc si vous voulez, je trouve ça, comme vous l'avez parfaitement rappelé, l'hypocrisie de la Macronie, parce que en même temps, c'est soit de la malhonnêteté, soit de l'hypocrisie. Là, en l'occurrence, ce sont les deux. Comment la Macronie, qui se drape des oripeaux de la concurrence, du marché libre, qui sont censés être derrière les entreprises dynamiques, celles qui affrontent la concurrence, etc., peuvent-ils nous tenir en même temps un discours étatiste consistant à dire bah finalement, si Duralex n'est pas concurrentiel, si Duralex n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau par sa propre organisation, sa propre structure, ses propres coûts de production, eh bien, on va balancer des bouées de financement public pour tenter de la remettre à flot le plus longtemps possible. Sauf que ces solutions, depuis déjà 50 ans, mon cher Richard, ces solutions-là ne sont que provisoires. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent public, alors certes, vous allez améliorer le bilan de l'entreprise, mais c'est une vision comptable des choses. Tant que l'entreprise ne parvient pas de manière endogène à créer les conditions de sa propre survie et partant de sa propre croissance, de sa propre, comment dirais-je, concurrence, de sa propre solidité dans le marché, c'est certainement pas l'État. Alors, à moins de rentrer dans un État soviétique où l'aide publique devient structurelle et permanente. Bon, et ça, c'est totalement contraire à une économie de marché. Plutôt que, si vous voulez, que de financer à corps perdu par l'aide publique et par les financements publics une entreprise qui, in fine, finira quand même par mettre la clé sous la porte, avec la différence qu'on aura entre-temps perdu des dizaines de millions d'euros, on ferait mieux de réfléchir au plan macroéconomique, à comment protéger nos entreprises de la concurrence déloyale. Parce que ce qui a tué Duralex, c'est ce qui a tué le textile en France, c'est ce qui a tué la sidérurgie, c'est cette ouverture insensée de nos frontières qui met en concurrence directe le salarié français avec le salarié chinois, le salarié vietnamien, le salarié indien, qui ne sont pas astreints à la même législation sociale, sanitaire, environnementale que le salarié français. Et donc, de deux choses l'une, ou on met des écluses aux frontières pour rétablir les conditions d'une concurrence praticable, ou alors on se résout à laisser crever nos entreprises, parce que vous avez beau baisser les coûts de production, vous avez beau automatiser, vous avez beau réduire les coûts salariaux, etc., jamais une entreprise française ne réussira à produire dans les conditions d'une société vietnamienne ou chinoise ou bangladaise ou indienne. Ça n'est pas possible. L'histoire économique et industrielle de ces 40 dernières années, c'est précisément ça. Des entreprises françaises qui font des efforts considérables, qui réduisent leurs coûts, qui automatisent, qui investissent et qui ne sont toujours pas au niveau de l'entreprise chinoise ou de l'entreprise vietnamienne. Donc à un moment, si vous voulez, de deux choses l'une, soit on dit, bon, bah, l'idéologie prime et on laisse toutes les entreprises et après Duralex, ça sera une autre parce que c'est malheureusement une litanie qui dure depuis 50 ans. Soit on laisse définitivement crever l'industrie en France, et on est bien parti pour si on ne fait rien. Soit on dit assez, c'est assez, il faut maintenant non seulement protéger le peu d'entreprises et d'industries qui nous restent, mais il faut aussi entamer une politique industrielle ambitieuse, comme la France a su le faire depuis plusieurs siècles. La dernière en date, l'exemple de colbertisme, c'était sous Pompidou et sous le général de Gaulle. Il faut une ambition industrielle, il faut recréer des filières. Alors évidemment, c'est des choses qui ne prendront pas un an ou deux ans, mais les combats qu'on est sûr de perdre, disait le général de Gaulle, sont ceux que l'on ne mène pas. Donc, il faut d'abord protéger les entreprises qui sont encore en activité par des barrières douanières. Il faut obtenir cela de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne, lorsqu'elle a été créée, prévoyait quand même le tarif extérieur commun. En gros, on disait aux pays, renoncez à votre politique douanière de protection de votre industrie parce que l'Union européenne va s'en charger. Vos frontières deviendront les frontières de l'Union européenne. Quelques années après, par idéologie, le tarif extérieur commun a été démantelé. Et pour cause, parce que nous avons fait entrer en Europe des pays qui produisent dans des conditions qui ne sont pas très lointaines de celles de l'Asie. Je veux parler notamment de la Roumanie, de la Bulgarie, etc. Donc tout ça, si vous voulez, la France a payé pour l'Europe, la France paye pour le monde. Il serait temps quand même que la France paye pour ses propres citoyens, leur procure des occasions d'emploi, des occasions de formation, recrée des filières. Le génie français ne doit pas disparaître. Or, le génie français, ce n'est pas un vain mot. Le génie français doit s'appliquer sur des choses extrêmement concrètes dans la fabrication, dans le « made in France ».
Alors, dans ce vibrant plaidoyer pour ce qui est fabriqué en France et les entreprises françaises, évidemment, dans la perspective de 2027, plusieurs des choses que vous avez dites renvoient à ce qui pourrait être un programme économique. Par exemple, le fait de suivre avec de véritables indicateurs de performance et pas au bout de 5 ans, mais tout de suite, l'ensemble des investissements et des subventions accordées par l'État français, le fait d'accorder une préférence nationale. Est-ce que le programme du Rassemblement national ou le programme de reconquête vous paraissent aller dans ce sens-là?
Mais vous savez, Richard, le problème, c'est que si le cadre macroéconomique est un cadre business-friendly, pour dire en bon français, nous n'aurions pas besoin d'aides publiques. Les aides publiques, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si vous étiez à bord d'un paquebot et que vous organisiez le naufrage de ce bateau et qu'ensuite vous drapiez des oripeaux du sauveur pour dire « Regardez, on jette des bouées à ceux qui se noient pour éviter qu'ils coulent. » Voilà ce que c'est les aides publiques. Les aides publiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'un État qui organise le naufrage industriel et économique de la France vient ensuite jouer au sauveur en disant « Regardez, les entreprises qui n'arrivent pas à survivre dans ce grand bassin où elles n'ont pas pied, le grand bassin de la mondialisation et de la concurrence déloyale, on est quand même grand seigneur, on ne les laisse pas crever tout de suite, on va les laisser crever à petit feu en leur balançant des bouées, leur permettant de maintenir la tête hors de l'eau un certain temps. Voilà ce que c'est les aides publiques. Donc moi, si vous voulez, quand j'entends le mot aide publique, je sors immédiatement l'arme du scepticisme. Dès que vous entendez le mot aide publique, pour une entreprise en tout cas, cela signifie que rien n'a été fait sur le plan macroéconomique pour protéger cette entreprise. Donc le programme de reconquête n'est pas tant, encore une fois, de compter sur l'État, parce qu'en fait, en plus, les aides publiques, c'est les Français qui aident. Je veux dire, les aides publiques, ce sont des dépenses publiques financées par l'impôt des Français. Or, reconquête estime que l'impôt des Français étant déjà usurier, une des méthodes pour réduire l'impôt, parmi toutes celles qui ont déjà été avancées par Reconquête, c'est précisément de recréer les conditions d'une concurrence praticable pour faire en sorte, parce que vous savez, un entrepreneur qui a une idée, qui commence à mettre en musique son idée dans le cadre entrepreneurial, à aucun moment de sa vie il se dit « Tiens, je vais pouvoir compter sur les deniers publics pour financer mon activité ». Ça n'existe pas. C'est même une idée antithétique à l'idée de l'entrepreneuriat. Donc les entrepreneurs, ils veulent pas d'aide publique. Les entrepreneurs veulent pouvoir conduire en France, mais en étant protégés d'une concurrence contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Et une fois, effectivement, et c'est notre ambition, une fois que le cadre de concurrence praticable sera établi pour nos entreprises, nous n'aurons pas besoin d'aide publique. Et c'est toutes ces centaines, ces milliards d'euros qui sont aujourd'hui consacrés à maintenir artificiellement à flot des industries, des entreprises qui autrement ne pourraient pas survivre, sont vouées dans le cadre économique et macroéconomique que nous envisageons, sont vouées à disparaître.
Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Alors, tout ce qui est voué à disparaître, c'est génial. Est-ce que le Reconquête a, là aussi, mis en place une méthode qui permet, en fait, d'accompagner cette disparition? Car on a toujours l'impression qu'il y a des effets, évidemment, d'équilibre et de déséquilibre. Si on supprime brusquement quelque chose, eh bien, on fragilise ce qui est avant d'avoir pu permettre à la personne d'apprendre à marcher sans béquille.
Bien sûr, c'est pour ça que, notre programme économique, ça a beau être un programme de choc sur la réduction d'un certain nombre de dépenses oisives qui, elles, à mon avis, ne manqueront pas aux Français, c'est-à-dire tout ce qui est l'aide publique au développement, la privatisation de l'audiovisuel, tout ça, la thérapie de choc, c'est-à-dire la thérapie immédiate, peut effectivement être appliquée de manière indolore pour les Français qui se verront... qui verront des économies de plusieurs dizaines de milliards d'euros arriver tout de suite. Maintenant, évidemment, nous ne procéderons pas à la hache dans tous les domaines. Il y a des domaines où il faut accompagner une transition dont on ne peut pas, si vous voulez, appliquer la thérapie de choc, notamment pour les entreprises. Ça sera pareil. Il faudra d'abord, évidemment, négocier au plan européen et exiger au plan européen une protection de notre tissu industriel. Je ne comprends pas comment la Chine, même les États-Unis, enfin toutes les grandes puissances industrielles dont se réclament les macronistes qui veulent faire pareil en Europe en disant l'Europe, ça doit être la nouvelle puissance industrielle qui fera poids face aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, etc. Sauf que j'ai envie de leur rappeler que les pays dont ils se prévalent sont des pays qui sont à la fois souverainistes et identitaires. Ce sont des pays qui protègent leur industrie, qui protègent leur identité. Alors, quitte à suivre un exemple, il faut le suivre jusqu'au bout. Il ne faut pas picorer ce qui nous arrange dans les exemples étrangers, notamment en termes de taille, en se délestant de tout ce qu'il y a à côté, qui est souvent le plus important.
Merci beaucoup, Jean Messia, pour cette chronique, cette discussion, cette analyse, et à jeudi prochain pour poursuivre la discussion.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Bonjour Benjamin Blanchard.
Bonjour Richard de Sèze.
Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Syrie.
Et oui, parce que mardi dernier, j'étais de passage rapidement à Alep, la grande ville du nord de la Syrie. Alors qu'en France, on a un peu oublié, mais nous étouffions sous une chaleur moite, il faisait une agréable douceur en journée et une fraîcheur un peu piquante en soirée. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour vous parler du climat que je suis là ce matin. J'étais à Alep pour les obsèques d'un cher ami, un homme qui a profondément marqué la Syrie de ses 30 dernières années. Si vous suivez un peu les actualités de SOS Chrétien d'Orient, vous aurez sûrement reconnu Mgr Jean-Clément Jambart, qui était métropolite d'Alep pour les Grecs Melkites catholiques, qui est la première communauté chrétienne d'Alep, donc métropolite d'Alep de 1995 à 2021.
Je crois que d'ailleurs que vous le connaissiez de longue date.
Et oui, j'avais rencontré Mgr Jambart le 31 décembre 2014, lors de mon premier déplacement à Alep, qui était le troisième en Syrie. C'était au pire moment de la guerre. Donc j'étais avec Charlotte Dornelas en Syrie, et tout le monde nous disait « Vous ne pouvez pas aider les chrétiens en Syrie sans aller à Alep ». Alors Alep était à la fois le cœur battant de la chrétienté en Syrie, et à la fois une ville martyr coupée en deux par la guerre. Vous vous souvenez, il y avait Alep Est aux mains des rebelles et Alep Ouest aux mains du gouvernement, et isolée du reste du pays, puisque l'autoroute pour y accéder était coupée, il fallait passer par le désert, par une petite route qui était absolument charmante, puisque 1 kilomètre à droite il y avait Daesh, et 1 kilomètre à gauche il y avait Al-Qaïda. Donc route qui était souvent coupée. Donc il nous avait reçus dans son archevêché, dans la vieille ville. C'était assez cocasse ou pittoresque, puisque l'archevêché était sous les bombardements, il y avait des trous de partout. On voyait les tireurs de l'armée dans les minarets qui étaient autour de l'archevêché. Et puis il fallait se déplacer en courant dans la cour de l'archevêché, puisqu'il y avait des francs-tireurs ennemis qui n'étaient pas loin, sans parler des tirs d'obus. Dès les premières minutes, il nous avait mis à l'aise, mais en fait, il nous avait vite mis dehors, car il craignait pour notre sécurité, puisque si vous avez bien écouté ce que
oui,
je viens de vous dire.
Oui, effectivement, c'était pas l'endroit le plus sûr de toute la Syrie.
Voilà, d'ailleurs, quelques mois après, il avait dû quitter cet archevêché, puisque ça avait été à moitié détruit par les bombardements de la rébellion. Et dès les premiers instants, j'avais perçu son tempérament paternel dont il n'a jamais manqué vis-à-vis de ses fidèles, bien sûr, mais aussi envers nous. Puis après, je l'avais revu, je me souviens, à l'été 2015, donc toujours à Alep, la situation s'était légèrement améliorée, il nous avait emmené dîner dehors, toujours avec Charlotte et avec un autre collègue, et puis ensuite, il nous avait dit, pourquoi ne pas aller prendre une glace en terrasse? Il était minuit, un archevêque en soutane à Alep prendre une glace en terrasse dans un bistrot, ça ne se fait absolument pas en temps de paix, alors en temps de guerre, n'en parlons pas, mais ça lui disait, il était content d'être avec nous, et nous avions fait ça, il a dit, je crois que c'est la première fois que je fais ça en 20 ans d'épiscopat. Et je me souviens encore de mon collègue Alexandre Godarzi, qui avait un long trajet à faire pour rentrer à Damas, qui n'était pas très couvert, et Monseigneur Jean-Bart qui lui avait donné un manteau, parce qu'il avait peur qu'il ait froid dans la voiture. Donc vous voyez, c'était un peu ce tempérament de grand-père qu'il avait envers nous et avec tous ses nombreux fidèles.
Alors, il a, à côté de ça, indépendamment de donner un manteau à une personne de secrétaire d'Orient en mission, il a réalisé de grandes choses.
Et oui, pendant les 26 ans de son épiscopat, Mgr Jean-Bart fut à la fois un bâtisseur et un pasteur. Dans les 16 premières années, ce furent les belles années. Petit âge d'or pour la Syrie qui était en plein développement. Et c'était aussi de très belles années pour les communautés chrétiennes d'Alep. Et donc là, il a beaucoup travaillé pour le développement, notamment en construisant une école moderne avec un campus un peu à l'anglaise, avec des terrains de sport, etc. Il a aussi construit des logements bon marché, toute une tour de logements pour les jeunes couples qui s'installent. Il a aussi construit de nouvelles églises dans les quartiers où les chrétiens étaient en train de s'installer. C'était une communauté, toute église confondue, de plus de 300 000 personnes. Puis ensuite vint la guerre. Et donc là, ce fut un tout autre rôle, porte-voix des chrétiens de Syrie, parfois un peu vif. Je me souviens d'une conférence de presse au siège de la conférence des évêques de France, où il avait déploré l'attitude des évêques de France pendant la guerre. Et puis également, travail social pour tenter de freiner l'hémorragie des chrétiens. Alors je ne sais pas s'il a beaucoup réussi, puisque le nombre de chrétiens a été divisé par 10 à Alep pendant la guerre. Il nous a beaucoup sollicités pour des projets et nous travaillions en confiance. Je pense au centre professionnel, qui est un centre de formation professionnelle pour apprendre aux chrétiens des métiers manuels et où il leur offrait le matériel pour ouvrir leur affaire à la fin des études. Encore des logements pour les jeunes couples ou aussi des aides aux familles qui avaient des jeunes enfants pendant 5 ans. Le 9 mai au matin, il est mort subitement à Paris où il était en visite. Les formalités interminables pour rapatrier son corps ont retardé les obsèques qui ont eu lieu le mardi 26 mai à l'église Saint-Georges à Alep. C'était très émouvant, il y avait la fanfare scout en tête, un clergé nombreux, tous les autres archevêques d'Alep, donc des autres rites ensuite, puis venait le cercueil avec le corps ouvert, donc en ornement épiscopaux, c'était très impressionnant. Et puis ensuite les évêques grecs melkites catholiques du pays, le patriarche et la famille, et ce qu'il reste des grandes familles d'Alep, c'est-à-dire pas beaucoup. C'était majestueux et solennel, j'ai eu l'impression non seulement de dire adieu à un ami et à un grand évêque, mais aussi de dire adieu à une ville au charme si particulier, une ville orientale mais avec des touches européennes flagrantes, l'ancienne Alep, hélas, aujourd'hui disparue.
Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour cette évocation pleine d'émotions.
Merci Richard.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Regardez les obsèques qui ont eu lieu le mardi 26 mai à l'église Saint-Georges à Alep. C'est très émouvant.
Eh bien bonjour Gilles. J'espère que Gilles va débarquer. Gilles a évidemment préparé, comme chaque jour, une revue de presse. Donc, il me l'envoie avant pour que je puisse lui poser des questions intelligentes. Par exemple, sur Boualem Sansal et Bruno Retailleau, sur Montretout, sur Natacha Polony, sur tous ceux qui font l'actualité politique du pays. C'est un sacerdoce et merci d'en être le prêtre, Gilles. Bonjour Gilles.
Allô, oui, bonjour. Il y a eu un petit problème, j'étais sur une autre ligne, voilà.
J'en ai profité pour faire un vibrant hommage de la manière admirable dont vous accomplissiez votre service auprès de Radio Courtoisie, Gilles.
Ah bah écoute, c'est gentil. Alors qu'est-ce que vous voulez, on recommence tout de suite au début?
Mais oui, par exemple, parlez-nous de l'entretien entre Boualem Sansal et Bruno Retailleau dans le Figaro.
Oui, alors c'est un entretien qu'on peut retrouver aussi sur le Figaro TV, hein, je le signale, qui est publié donc aujourd'hui dans les pages Champs Libres du Figaro par Alexandre Devecchio et Sacha Bauduit. Alors, Wallem Sansal s'explique d'emblée sur le titre de son livre, hein, La Légende. Lorsque les prisonniers de Coléa, vous savez, cette prison très dure, la plus grande d'Algérie, située à 60 km d'Alger, ont vu arriver celui qui alimentait les rumeurs depuis une semaine, ils m'ont instinctivement appelé La Légende, confie Wallem Sansal. Je crois qu'ils ont fait un transfert sur moi. Ils se disaient, cet homme à la France et l'Europe derrière lui qui exige sa libération immédiate et menace le régime de Tebboune de sanctions. Ils se sont persuadés que le régime finirait par tomber sous la pression. Il était déjà divisé, isolé, ruiné. Ils paniquaient au point d'arrêter un simple écrivain et ils ont vu là un espoir sur eux. Je suis devenu le symbole de la liberté d'expression et de la lutte contre la dictature. La vie en société repose sur ça. La liberté de s'exprimer, de se contredire. La société, l'économie, la nation tiennent par cela. Si l'on ferme les canaux de communication, de discussion et de débat, la société étouffe et meurt. Alors qu'on lui demande s'il pense avoir été emprisonné sur ordre direct d'Abdelhamid Tebboune, Wallem Sansal répond, c'est lui-même qui le dit. Avant que je sois jugé, il avait déclaré à un journaliste qui lui posait la question, Wallem Sansal est un imposteur, un traître et un bâtard. C'est un agent de la France payé pour salir l'histoire de l'Algérie. Alors certains ont dit que mon arrestation était le prix de ma naturalisation. Je crois qu'en me frappant, il frappait la France et cela lui faisait plaisir. C'est primaire comme comportement.
Oui, mais c'est pas trop étonnant de la part d'un président algérien. Alors du côté de Bruno Retailleau, justement, puisque c'était un entraîneur croisé.
Justement, l'ancien ministre de l'Intérieur rappelle que l'emprisonnement de Boualem s'est rapidement imbriqué avec d'autres dossiers. Dès le mois de février, l'attentat de Mulhouse, souvenez-vous, perpétré par un clandestin algérien refusé à 14 reprises par les autorités algériennes, a renforcé ma conviction, dit le ministre, que la fermeté s'imposait avec l'Algérie. Il faut rappeler que 40% des étrangers placés en centre de rétention administrative sont des ressortissants algériens. Alors beaucoup sont dangereux. Alger viole les accords de 1994 qui l'oblige à réadmettre sans délai tout ressortissant expulsé. J'ai donc cherché à faire respecter ces accords pour protéger les Français. Certains invoquent l'état de droit pour refuser la fermeté. Mais l'état de droit, c'est précisément de faire respecter le droit, y compris par des états étrangers. Wallem Sansal raconte encore que Bruno Retailleau était un héros dans sa prison et voir la France traîner dans la boue jour après jour me plaisait, dit-il, pas du tout, ne plaisait pas du tout aux prisonniers. Pour eux, elle est le symbole de la liberté à l'abri de ces millions, des millions d'Algériens. Bruno Retailleau était pour eux le symbole de la dignité française, de la dignité pour tous. La France devrait engager un véritable rapport de force et quand on veut protéger son pays, on fait tout pour que le rapport de force soit toujours de son côté. Alors voilà, vous lirez la suite dans les colonnes du Figaro. Bruno Retailleau y raconte notamment dans le détail les raisons de sa démission du gouvernement et explique qu'il est urgent, je cite, de normaliser notre relation et de refonder une doctrine d'État à partir de nos intérêts nationaux.
C'est admirable de voir à quel point Bruno Retailleau est intelligent et courageux depuis qu'il n'est plus ministre. Alors, et c'est fini à Montretout, paraît-il.
Oui, alors, un an après la disparition de Jean-Marie Le Pen, sa folie, enfin son manoir de Saint-Cloud, est sur le point d'être vendu. Alors, dans le Parisien, Olivier Beaumont, qui avait consacré d'ailleurs un livre à Montretout il y a quelques années, révèle sur une page qu'un compromis de vente a été signé avec ses trois filles, donc ses trois héritières, Marine, Marie-Caroline et Yann. Estimation de la vente entre 7 et 10 millions d'euros. Alors que le déménagement est en cours, Marine Le Pen a déclaré « Tout cela est du ressort de notre vie privée, cette maison n'est plus un endroit politique, et depuis longtemps ». Alors d'après une source au fait des tractations, l'acquéreur serait une famille qui habite dans l'ouest parisien, qui cherchait à Paris à la campagne. Alors on le sait, le manoir de 400 mètres carrés, construit sous Napoléon III, avec un jardin de 5000 mètres carrés, des écuries transformées en dépendances, est installé sur les hauteurs de Saint-Cloud, dans un parc archi-sécurisé, où se sont installés d'ailleurs ces dernières années l'acteur Jean Dujardin et la chanteuse Mylène Farmer, comme Lino Ventura autrefois. Alors la demeure avait été acquise à la fin des années 1970 par Jean-Marie Le Pen, dans des conditions bon, toujours restées mystérieuses, un héritage obtenu après la mort d'Hubert Lambert, descendant des cimenteries Lambert, et dont le testament a toujours été contesté par la famille du défunt. Mais ceci est une autre histoire. Alors selon les informations d'Olivier Beaumont, tous les souvenirs contenus dans la maison ont été répartis entre les trois filles et les 9 petits-enfants du patriarche.
Et voilà, bah ça change de la famille de France qui a préféré les vendre. Vous avez vu l'éditorial de Natacha Polony qui part de la crise de la natalité en France et en finit par faire l'apologie de sa croyance en l'humanité.
Oui, alors avec cette question posée d'emblée, l'humanité a-t-elle choisi l'auto-extinction? Vous avez bien entendu, l'auto-extinction. Elle répond aussitôt en écrivant que certains se le demandent en voyant le chiffre de la natalité dans l'ensemble des pays développés. Elle ajoute « La question dépasse de beaucoup les seuls enjeux économiques. Il semble que l'humanité, enserrée dans les raies du consumérisme et du progrès technique, est perdue jusqu'à l'envie même de se perpétuer. » Et dans son éloge de la procréation, Natacha Polony, qui aime prendre de la hauteur, écrit que « Choisir aujourd'hui d'avoir des enfants nous ramène à notre incarnation. C'est se souvenir que l'on est mortel et sortir du présent permanent qu'installe la modernité. » En phrase autrement provocante ou audacieuse que je soumets à votre réflexion, mon cher Richard, et elle va même plus loin car elle écrit que c'est une expérience troublante qui passe par le bouleversement immaîtrisé du corps, la nécessaire acceptation de ce qui nous dépasse et nous inclut dans un cycle du vivant dont les progrès de la science ne suffisent pas à épuiser le mystère. Je trouve ça remarquablement dit. Vous pourriez dire, comme vous l'avez fait pour Abel Quentin tout à l'heure, mon cher Richard, que vous avez reçu, que Natacha Polony va là où son intelligence l'amène. C'est trop rare pour ne pas le souligner.
Voilà, et rappelons que le numéro 3 de la revue L'Audace, dirigé par Natacha Polony, est paru et est disponible en kiosque. Merci beaucoup, Gilles Brochard, et à demain sur Radio Courtoisie.
Zone libre.
Alors, bonjour Louis Rigaudière.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, qu'êtes-vous allé chercher dans les tréfonds sombres de l'Internet?
Bah écoutez, je commence par un chiffre, 104 ans. Qui est mort récemment à 104 ans.
Edgar Morin.
Et oui, Edgar Morin, qui a eu droit à son hommage national hier, devant Macron, devant toute la Macronie. C'était beau à regarder, c'était presque émouvant. Alors, loin de moi l'idée de rendre hommage à ce sociologue de gauche, qui était d'ailleurs très proche de Tariq Ramadan, un internaute s'est amusé à répertorier toutes les personnes et autres entités plus jeunes qu'Edgar Morin, parce que 104 ans, c'est quand même pas un âge anodin. Alors, parmi les exemples, on retrouve par exemple Valéry Giscard d'Estaing, qui était plus jeune qu'Edgar Morin. Michel Rocard était plus jeune qu'Edgar Morin. Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, était plus jeune qu'Edgar Morin. Raymond Barre également. L'État d'Irlande était plus jeune qu'Edgar Morin. Margaret Thatcher ou encore Georges Brassens. On retrouve la moitié aussi de La recherche du temps perdu de Marcel Proust qui ont été publiés après la naissance d'Edgar Morin. Le cinéma parlant également était plus jeune qu'Edgar Morin. L'URSS, Edgar Morin était plus vieux que le roi Baudouin de Belgique, que Raymond Devos, etc., etc. C'est pour vous dire que quand même 104 ans, c'est quand même un âge assez inédit.
Ça nous a permis de traverser 2 siècles en étant systématiquement du côté des dictatures les plus sanglantes. Merci beaucoup.
Exactement.
Edgar, tu es un phare de la pensée. On comprend qu'Emmanuel Macron t'ait rendu hommage.
Et voilà, la question maintenant, c'est de savoir qui est la personnalité française la plus âgée et encore en vie sur cette terre. C'est une question que je n'ai pas encore la réponse, mais je vais rechercher de ce pas.
Voilà. Merci beaucoup Louis Rigaudière, et nous vous tiendrons au courant de ses chances de survie. Alice Meunier, dites-nous tout.
Oui, moi je vais vous parler d'une nouvelle sortie, d'un nouveau film qui va sortir le 12 août. Donc c'est une comédie qui s'appelle Tombée du ciel, et donc c'est... Je vais vous lire le synopsis. Donc, c'est Iliès qui mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix, et finalement, il va devoir changer d'école parce qu'on l'accuse à tort d'être à l'origine d'un incendie dans son école. Et donc, il va devoir aller dans le seul établissement qu'il accepte, c'est le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand en Bourgogne. Et donc, le film met en scène ce choc de culture et Iliès qui va devoir surmonter des préjugés. Et que les autres vont devoir aussi surmonter des préjugés.
Voilà, et donc Iliès, jeune musulman, va évidemment expliquer à ce monde catholique vermoulu et clos sur lui-même à quel point la diversité est une chance, à quel point l'ouverture d'esprit est un miracle porté par ces chances pour la France qui se sont répandues dans les rues de France, de Navarre, et qui ont ravagé l'intégralité de la France, sauf Marseille, pour des raisons qui échappent à tout le monde, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Chers amis, c'est l'heure de vous quitter sur YouTube et sur X, mais on ne se quitte pas sans vous avoir réclamé un tout petit peu d'argent.
Un petit peu d'argent, oui, s'il vous plaît. Vous pouvez nous faire des dons en ligne.
S'il vous plaît.
Vous pouvez nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr. C'est important pour soutenir Radio Courtoisie et lui permettre de vivre et même de survivre. Et puis, vous pouvez également envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et nous réécoutons tout de suite l'entretien assez émouvant donné par M. Vasselet ce matin, un an après la mort de son fils Benoît.
Ligne droite. Debout les Français.
Et dans Debout les Français, nous recevons Thierry Vasselet. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Alors, vous êtes le père de Benoît Vasselet, votre fils, qui avait 17 ans au moment où il a été tué à Dax le 31 mai 2025, en marge de la finale de la Ligue des Champions.
Oui, oui, c'est bien ça, oui.
Alors, votre fils a été tué par un multirécidiviste dont le prénom est Selman, donc qu'il a assassiné de plusieurs coups de couteau, qui s'est enfui, qui est venu se rendre à la police quelques jours plus tard. Il avait été aidé dans sa fuite par les camarades qui étaient avec lui à ce moment-là. Et depuis un an, vous remuez ciel et terre pour que Selman soit jugé.
Oui, c'est ça. Alors moi, je n'ai pas hésité avec le nom de famille parce que je m'en fiche de toute façon. Mais moi, c'est le match Ramovic. Voilà, donc c'est une racaille, comme il y en a beaucoup en France, malheureusement, qui ne devrait même pas être sur ces terres, qui ne devrait même pas vivre. Donc effectivement, il a assassiné mon fils pour un acte gratuit, pour une casquette qu'il a volée à Benoît, que Benoît voulait récupérer quelques jours plus tard. Et ensuite, ça a été quand même le premier mineur au monde, j'ai bien le premier mineur au monde, à être mis sur la liste rouge Interpol. Voilà. Donc, ensuite, il s'est échappé avec trois complices, oui, effectivement mineur, et son père aussi, de QIS à Souston et de Souston Bordeaux, qui malheureusement ne peut pas être poursuivi parce qu'il y a le code d'immunité qui date de 45 qui protège les membres de la famille, parents, frères et sœurs. Donc voilà, donc elle est belle la France, donc c'est-à-dire qu'on peut aider à échapper son enfant et on ne peut pas être poursuivi. Pourtant, il est complice, le père. Voilà, donc il vit tranquillement, il est sous OQTF actuellement, plus pour violence conjugale et alcoolisme en plus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc Benoît, ce soir, ne devait pas sortir au départ parce que la casquette, il était déjà passé à autre chose. Malheureusement, quand il voulait rejoindre ses copains ce soir-là, il est tombé sur son assassin avec la casquette sur sa tête, donc quand même provoqué de cette manière-là, on peut pas mieux faire. Et pour l'inciter à se battre, alors que Benoît ne voulait pas se battre du tout, il ne sortait pas pour ça. Il sortait pour passer un bon moment avec ses amis. Et ensuite, donc c'est les complices de l'assassin et ses soi-disant copains, Benoît. J'appelle pas ça des copains moi, parce que si ça avait été le cas, ils auraient plutôt empêché de se battre au lieu de l'inciter. Et alors du coup, Benoît s'est retrouvé sous une pression énorme. Il est parti dans une ruelle, ils se sont battus, il avait le dessus parce qu'il fait la boxe thaï depuis 2 ans. Et malheureusement, l'autre, il n'était pas venu ni pour lui rendre la casquette, ni pour se battre à la loyale, il était venu pour le tuer. Donc il lui a mis 4 coups de couteau, un dans la côte, 2 dans le poumon et 1 dans le cœur. Et à ce moment-là, il a poignardé vraiment gratuitement. Sans lui laisser aucune chance. Et puis ça s'est terminé comme ça. Et ensuite il s'est échappé bien sûr avec ses complices mineurs qui sont sous brasse électronique bien sûr. Donc pour moi ça veut rien dire, c'est la rigolade parce qu'ils sont en liberté. Puis ensuite il y a eu aussi les trois complices serbes aussi à Bordeaux qui l'ont hébergé pendant une semaine. Et pour le moment il est en prison pour mineurs à Pau. En envoyant des photos à ses copains de QIS à Dax, en marquant au-dessus de la photo « Liberté ». Voilà, donc suite à ça, j'ai appelé le directeur de la prison pour lui demander si c'était normal qu'il envoie des photos, en marquant « Liberté » surtout, et c'était normal qu'il ait un portable, et c'est là qu'ils m'ont répondu que non. Que c'était un fléau, mais qu'ils étaient en manque de moyens, bien sûr, comme dans tous les métiers, pour justement éradiquer ce fléau qu'ils ont du mal à maîtriser. Donc, à se demander si ce ne sont pas des complices qui travaillent au sein de la prison, des gardiens qui font entrer ce genre de portable, ou si ce sont des prisonniers qui sont très très malins pour les faire entrer. Donc, suite à ça, écoutez, Voilà, je vous ai raconté grosso modo l'histoire. Après, si vous avez d'autres questions, bah, écoutez, je...
Et, oui, parce que, donc, évidemment, c'est un drame qui vous a dévasté, vous, votre femme, et la sœur de votre fils, votre fille. Vous avez décidé d'organiser une marche blanche et pendant cette année de souffrance, vous avez aussi insisté tant et plus auprès de la municipalité de Dax pour qu'il y ait une plaque qui soit apposée à l'endroit où votre fils a été tué.
Oui, tout à fait. Alors, donc, pour la plaque, c'était un combat de titans, hein, parce que ça a été très compliqué. C'est un peu aussi comme en France, l'administration française, toujours qui bloque, qui ralentit les demandes. Il faut 50 autorisations, 50 services. Enfin, bon, c'était très, très long. Mais j'ai réussi quand même, grâce à l'Institut Thermalisme et l'Université de l'Académie de Bordeaux, où se trouve qui se trouve dans la ruelle où Benoît est assassiné, où j'ai réussi à avoir affaire des gens charmants et qui étaient vraiment très touchés par mon histoire, qui ont fait le maximum pour qu'ils puissent avoir l'autorisation. La plaque a été donc installée en début de semaine. Et par rapport à la marche blanche, effectivement, nous organisons une marche blanche samedi 6 juin avec un départ à 15h à la Fontaine Chaude, avec un petit tour dans les rues piétonnes, l'inauguration de la plaque, un petit discours de Monsieur le maire, Monsieur Dubois, et ensuite peut-être mon frère, une amie et moi-même, et ensuite il y aurait une soirée privatisée au pub au Mulligan, donc à Dax, un pub irlandais, uniquement pour les proches, famille et amis donc de Benoît, ainsi que pour mon épouse, ma fille et moi-même, voilà, tous nos proches.
Monsieur Vasselet, donc évidemment perdre un fils dans ces conditions, c'est un drame dont vous êtes pas remis. Et j'espère évidemment que le temps fera son œuvre. Quel message aimeriez-vous faire passer à la mairie de Dax, à la police de Dax et d'une manière plus générale à ceux qui sont censés assurer la sécurité des Français en France?
Alors, au niveau de la police municipale de Dax et la police nationale de Dax, je n'ai rien à leur reprocher. Ils font du très bon travail, malheureusement en manque d'effectifs, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, oui, j'ai un gros message à passer à l'État français et à la justice française, qui est en dérive depuis 50 ans et qui laisse pourrir le pays de l'intérieur. On se demande s'ils ne cherchent pas une guerre civile entre les bons et les méchants. En fin de compte, ils sont dans l'incapacité, et bien l'incapacité, de protéger nos enfants. Pour moi, ces députés, ces sénateurs, ces ministres sont tous des incompétents depuis 50 ans. Et sans parler du guignol qu'on a à la tête de l'État, notre cher président Macron, qui ne font rien, je dis bien rien, même s'ils font semblant de faire, pour protéger les citoyens et notamment nos enfants. Donc je suis très en colère après eux, parce qu'en fin de compte, ils sont responsables, je dis bien responsables de la mort de Benoît, et tant d'autres de jeunes qui sont agressés mortellement régulièrement, chaque semaine on dira. Donc ils sont responsables parce qu'ils n'ont pas fait le boulot correctement. Le mineur était connu par la police pour 5 délits en 2024 qui n'est toujours pas jugé et condamné aujourd'hui. Et ensuite, le père, comme il était assigné à résidence, il était dans l'interdiction de voir son épouse et ses enfants et ça n'a pas été contrôlé non plus. Donc pour deux raisons, défaillance de l'État et défaillance de la justice, Benoît devrait être vivant aujourd'hui.
Et effectivement, donc Selman était connu pour plusieurs délits comme port d'armes, trafic de stupéfiants, refus d'obtempérer, vol en bande organisée. Donc là, on sent qu'il y a de la part de la justice le choix délibéré de laisser en liberté des gens en fait, dont la dangerosité est acquise.
Ah oui, bah tout à fait, vous avez exactement résumé la situation. On a l'impression qu'ils préfèrent les laisser en liberté que les enfermer et qu'ils continuent à violer, à tuer, parce que c'est le même problème pour les violeurs, qu'on relâche, alors que normalement ils n'ont rien à faire dans la rue, ils sont dangereux, mais j'ai un exemple récent là où de l'année dernière, je crois, un violeur qui était en prison pour deux raisons, il a été relâché, parce que le juge et le psychiatre a décidé de le relâcher. Parce que sachant que pour eux, il n'était plus dangereux. Et en fin de compte, ils l'ont relâché et il a violé et tué une fille. Donc maintenant, j'aimerais bien que les juges et le psychiatre aillent expliquer aux parents de la fille qui a été violée et tuée pourquoi ils ont relâché le violeur, alors que normalement, il aurait dû rester en prison. Donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un gros problème dans notre pays. Donc je ne sais pas ce qu'ils cherchent, là, ce que cherche la justice, ce que cherche l'État, de laisser des gens comme ça... des déchets d'humanité, des des pourritures, en fait, quand des gens qui ne devraient même pas être sur Terre, et les laisser en liberté continuer à tuer, à violer, et j'en passe. Quoi. Donc, je ne comprends pas.
Le procès de l'assassin de votre fils est prévu pour l'année prochaine, je crois.
Oui, c'est ça, 2027 ou plus tôt. Et peut-être 2028.
Et donc, à ce moment-là, Selman sera devenu majeur. Il avait 16 ans au début des faits. Donc, il est possible que Selman ne soit pas jugé en tant que mineur, puisque il est possible, quand le suspect est âgé de 16 à 18 ans, que l'exception de minorité soit levée, je crois.
Oui, tout à fait. C'est mon avocat m'en a parlé. Donc, pour l'instant, comme la loi n'est toujours pas votée, parce que bon, mes deux objectifs, c'est qu'il soit jugé comme un majeur, premièrement, et deuxièmement, qu'il prenne 30 ans compressible, parce que c'est la peine maximale, enfin la perpétuité chez nous, mais c'est pas la perpétuité réelle, parce que comme aux États-Unis, étant donné que la Cour européenne des droits de l'homme l'interdit, et ça c'est bien dommage, donc ce qui fait que chaque pays ne peut même pas faire ce qu'il souhaite. Bientôt, c'est l'Europe qui commande, et ça c'est insupportable au niveau de la justice, et j'en passe concernant d'autres domaines, c'est le même problème. Et donc du coup là, concernant notre histoire, étant donné que la loi n'est toujours pas votée, eh ben ça sera au cas par cas. Donc ça sera le magistrat ou le juge qui décidera si oui ou non il doit être jugé comme un majeur. Donc il faut vraiment prier, comme on dit, très fort pour qu'il prenne la bonne décision. J'espère qu'on tombera sur un magistrat compétent qui est soucieux de la sécurité de nos Français et soucieux d'une vraie justice et qui sera compétent et qui fera son boulot correctement. Parce que malheureusement, dans tous les métiers, il y a des incompétents, des laxistes et des gens bien. Voilà.
Eh bien, espérons aussi que vous tomberez sur quelqu'un de bien, comme vous dites. Monsieur Vasselet, dans cette année qui vient de s'écouler, dans l'année qui s'annonce après cette marche blanche, ce qui vous soutient, c'est le combat pour la justice, mais est-ce que vous trouvez ailleurs aussi un soutien dans des causes à défendre ?
Alors pour l'instant, les causes à défendre, peut-être au niveau des associations, avec quelques personnes proches, on va peut-être essayer de voir de créer de plus tard pour essayer de sensibiliser les jeunes justement de cette ultra-violence qui ne s'arrange pas, au contraire, qui s'empire de jour en jour. Dans les médias, l'année que nous avons vécue était un vrai cauchemar, était un enfer, quoi, quelque part. Pour mon épouse, elle a essayé de pouvoir s'exprimer pour essayer de nettoyer la tête, comment dire, pour ce parcours depuis un an qui est très compliqué, dans le niveau des puzzles, de la télé, de l'écoute de la musique. Ma fille, c'est plutôt le sport, la musique, pratique, plus dessin, peinture. Et en ce qui me concerne, moi, je suis donc aussi musicien sportif, sauf que la musique, j'ai fait un break parce que j'ai pas du tout la tête à ça. Mais par contre, j'ai intensifié mes séances de sport où je fais à peu près entre 3 et 5 heures de sport par semaine. Plus un suivi psychologique. Voilà.
Bon, Monsieur Vasselet, évidemment, toute nos condoléances et toute notre sympathie pour le meurtre qui vous a touché, vous et votre famille, et nous suivrons bien sûr l'évolution de cette affaire judiciaire. Merci et pas à bientôt, mais à un jour sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Chers amis, merci, il est temps de nous quitter. On ne va pas se quitter sans vous réclamer une fois encore un peu d'argent. Vous êtes 1,5 million à nous écouter, vous êtes à nous écouter, vous êtes 20 000 ou presque à nous donner. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi progresser.
Il y a une marge de progression, effectivement. Donc si vous souhaitez nous soutenir financièrement, faites-le en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Et avec tout ça, on va pouvoir procéder... 1, 2, 3, produire de très bonnes émissions, comme celle de Daniel Brecon tout de suite, mais aussi ce soir, par exemple.
Alors, on va commencer par ce midi, on va la prendre dans l'ordre. Libre journal d'Aude de Kéros à midi, avec une émission consacrée à l'architecture et à la musique, avec notamment l'architecte Grégoire Bignet et Elisabeth Sombart, la grande pianiste. À 17h, Sursum Corda, émission dirigée par Mathieu Raffray, l'abbé Mathieu Raffray qui nous parlera de la foi. 17h30, nous y sommes à ce soir, cher Richard. Restons courtois avec Marc Hainaut en direct, consacré à la présidentielle et les 199 candidats, le grand décryptage politique avec Alexandre Pilot et Arnaud Benedetti. À 19h30, le Libre Journal des Traditions, dirigé par Alain Laurence, avec trois grands moments dans cette émission. Tout d'abord, Thierry Bouclier pour son livre Michel de Saint-Pierre, une biographie. Activité des jeunes pros de Saint-Nicolas du Chardonnay. Et puis, en troisième temps, les concerts de l'ensemble Cor Ardens. Et puis, enfin, ce soir, à 21h30, vous pourrez suivre en direct le Libre Journal de la Souveraineté, une émission dirigée par Michel Leblay. Le sujet du soir, la situation politique de la France entre les élections municipales 2026 et l'élection présidentielle de 2027, avec comme invité Étienne Lahire, un politologue.
Merci beaucoup, et demain matin, nous recevrons Elisabeth Louvel, et pour le reste, c'est une surprise.
Eh bien, à demain, cher Richard, et à demain à tous.